Ça fait jazzer, l'émission de Bac FM 106.1 vous emmène au cœur du 39e Jazz Nevers Festival tous les jours à 17h30 pour rencontrer certains acteurs du festival et connaître le programme de cette 39e édition. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Raphaël Tchamitchian. Bonjour Raphaël.
Bonjour, merci beaucoup.
Vous êtes journaliste indépendante et vous avez travaillé avec l'ONG pour un projet qui s'appelle les ailes du jazz. Que pouvez-vous nous dire de ce travail, ce projet ?
Alors, les ailes du jazz, c'est une action culturelle qui a été imaginée pour les collèges.
D'accord.
Sous la forme d'un puzzle.
Oui.
Qui représente 12 musiciennes de jazz, depuis Bessie Smith jusqu'à Sun Mi-Hong, qui est une batteuse sud-coréenne.
Sun Mi-Hong, c'est la seule que je ne connaissais pas dans les 12 choisies.
Voilà. C'est une batteuse sud-coréenne installée à Amsterdam.
D'accord.
Qui est toute jeune, elle est née en 90. Et donc l'idée avec ce puzzle et du coup l'atelier de médiation qui va avec, qui dure à peu près une heure dans les collèges, où du coup les élèves sont invités à faire le puzzle en petits groupes. Et puis ensuite, moi, je viens leur parler des figures qui sont représentées dessus et je complète avec de la vidéo, du son, de l'image, etc. Okay. Et l'idée étant de leur faire découvrir des grandes figures féminines de l'histoire de cette musique, qui est... souvent, la plupart du temps, abordé par le prisme de ces grandes figures masculines.
Ben oui, on parle.
Donc voilà.
Comme beaucoup. Alors, il y a 12 artistes sélectionnés, qui vont sur un temps long. Et ça a été... Comment sélectionner 12 artistes musiciennes sur tant de temps? Et le choix doit être cordélien.
Tout à fait. Bah, alors, ça a été tout un processus. Ça a été, on a essayé de trouver un équilibre entre différents styles de jazz, même en débordant un petit peu sur la musique noire de manière générale. Donc, par exemple, on a Sister Rosetta Tharpe qui vient du gospel, qui est un peu l'ancêtre, la marraine du rock'n'roll. Ouais. C'était son surnom. On a aussi Dorothy Ashby qui a fait des albums soul dans les années 60.
D'accord.
Et après, il s'agissait d'avoir aussi un panel historique le plus large possible, donc d'avoir... Bessie Smith qui est née à la fin du 19e siècle,
ouais, jusqu'à quelqu'un
qui chantait le blues, voilà, en passant par Mel Ballyston qui est une figure du bebop, Marilou Williams qui a traversé aussi un peu tous les styles de jazz depuis le swing jusqu'au free même dans les années 70,
et puis
d'avoir quelques artistes françaises aussi, qu'on a pu d'ailleurs écouter dans le festival les éditions précédentes, comme Erel Besson, Sarah Murcia qui vient de jouer. Voilà.
Et il y a la grande Carla Bley aussi.
Et il y a aussi tout à fait la grande Carla Bley.
Instrumentiste, compositrice, voilà. Chef d'orchestre et américaine, voilà. Bon. Et alors, vous expliquez ça aux jeunes, alors, mais quel est le sens de tout ça? C'est pour dire que les femmes aussi font du jazz. Les femmes aussi sont aussi importantes que les hommes. S'il n'y avait pas eu MeToo, est-ce que ce projet aurait existé?
Ah, ben ça, je ne sais pas trop. D'accord. C'est un peu difficile de le dire. Oui. Mais enfin, en tout cas, oui, c'est sûr qu'on surfe complètement sur la vague MeToo. Et ça, c'est sûr. Mais c'est bon, ça. Un peu comme tout le monde en même temps.
Ouais, oui, voilà. Ouais. Oui, mais c'est bien en même temps de remonter ça.
L'idée derrière cette action, c'était effectivement de faire connaître déjà des musiciennes qui sont peu ou pas ou mal connues. Mmh. On a essayé aussi, par rapport à la question de la sélection, de choisir des personnes qui ne sont pas forcément extrêmement connues. Donc la plus connue, c'est vraiment Billie Holiday, mais après sinon, les autres, on essaye que ça soit des personnalités un petit peu moins publiques, disons, un peu moins connues. Et l'idée aussi derrière ça, c'est peut-être de susciter des vocations. Puisqu'on constate à travers les études sociologiques qui ont été menées que y a une disproportion entre les élèves filles et les élèves garçons dans les écoles de musique, mais qui s'agrandit au fil du temps. C'est-à-dire que les filles sont certes minoritaires en premier cycle quand elles sont donc petites, mais il y a quand même encore à peu près un équilibre. Et puis petit à petit, il y a une déperdition. Et c'est à peu près au moment du collège-lycée qu'on voit qu'il y a un décrochage qui s'opère avec des petites filles ou des jeunes filles qui sont du coup peut-être plus préoccupées par leur résultat scolaire et par la préoccupation de trouver un métier, etc., à la sortie d'une formation, etc. Alors que peut-être que les garçons se posent un peu moins la question et suivent un peu plus leur passion. Et donc l'idée, c'est aussi de peut-être de semer des petites graines pour que les jeunes filles puissent se sentir un peu plus autorisées à suivre aussi leur passion.
Parce qu'on avait Hélène Labarrière qui disait, qui était à votre micro, qui disait, je me suis toujours battue toute ma vie pour qu'on parle de moi en tant que musicienne, et ce qui compte, c'est ce que je joue et non pas ce que je suis. Et donc elle a toujours supporté cette idée, c'est une femme qui joue de la musique. Et donc peut-être que le projet fait que des musiciennes sont des musiciennes en fait.
C'est mon espoir. Après, cette question, c'est vrai qu'elle est... Je comprends très bien ce qu'Hélène Labarrière peut dire. Effectivement, je pense que ça doit être très fatigant d'être renvoyée en tant que musicienne à sa condition genrée. Ça peut avoir un effet très ghettoisant.
C'est ça.
Et en même temps... Malheureusement, si on n'en parle pas, c'est-à-dire que si on n'en fait pas un sujet, en fait, l'inégalité va demeurer.
Puis nous, les hommes, on va continuer à garder le pouvoir et puis on sera.
Et il ne se passera rien. Donc, effectivement, l'idée, enfin, en tout cas, l'objectif final derrière tout ça, derrière toute cette discussion, tout ce mouvement, étant qu'effectivement, un jour, on n'en parle plus du tout.
C'est ça, voilà. Mais ce que disait Hélène encore à votre micro, c'est que le combat, il est aussi du côté des hommes. Il faut que ce n'est pas uniquement un combat des femmes. Et vous êtes là aussi pour une deuxième raison. Il y a une exposition qui est accrochée à la médiathèque Jean Jaurès. Je suppose qu'elle vient avec vous. Moi, j'ai été la voir. Quelle est la genèse? Parce qu'en fait, ces photos, c'est toujours la même personne qui est dans certaines conditions. Et je n'ai pas tout à fait compris l'idée. Qui est derrière ça?
Alors, l'idée, c'était de mettre en valeur des chiffres.
Oui, ça, oui.
Les photos et les illustrations sont arrivées dans un second temps pour peut-être un petit peu donner une forme, exactement. Mais l'idée de départ, c'est vraiment de proposer des chiffres de la manière la plus neutre possible. Simplement pour diffuser en fait la réalité de la situation aujourd'hui concernant la question de l'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est totalement informatif. Et c'est une exposition qui voyage avec l'Orchestre National de Jazz.
D'accord.
Donc, elle a été élaborée effectivement en collaboration avec l'équipe de l'ONG. Et comme l'orchestre jouait au festival lundi soir, du coup...
Qui était un magnifique concert, d'ailleurs.
Absolument.
Sur la musique de Carla Bley, dont nous parlait tout de suite. Et puis, il y a aussi votre conférence tout à l'heure. Donc, la conférence, c'est basé sur ce que vous venez nous dire, d'expliquer le pourquoi, du comment, de tout ça.
Oui, c'est ça, exactement. Moi, je ne m'intéresse pas forcément à l'histoire de la présence des femmes dans le jazz. Je ne vais pas forcément aller raconter la biographie des unes et des autres, mais je vais plutôt essayer d'analyser les raisons pour lesquelles il y a une inégalité aussi forte et décortiquer les processus sociaux qui sont à l'œuvre et qui font que il y a moins de femmes que d'hommes sur les scènes de jazz encore aujourd'hui en France.
C'est ça. Alors, je voudrais rappeler aussi que le 24 et le 25 novembre, vous intervenez dans des collèges dans la région pour présenter ce puzzle. Et puis donc, la conférence. Alors, vous êtes journaliste, j'ai été voir sur votre site, donc vous êtes journaliste indépendante, donc vous ne faites pas que ce projet sur les ailes du jazz. C'est... À quoi consiste? Parce que vous avez fait une thèse sur la musique de jazz dans une... J'ai oublié le nom de cette auteure américaine. Alors ça, moi, je trouve ça passionnant, effectivement. Mais donc, en quoi consiste votre métier, finalement?
Eh ben, je cherche encore. effectivement, j'ai une formation universitaire. J'ai fait une thèse sur les rapports entre le jazz et l'écriture dramatique dans l'œuvre d'une autrice afro-américaine qui s'appelle Suzanne Laurie Parks.
Voilà.
Et qui est une star aux États-Unis, mais qui est complètement inconnue en France puisqu'elle n'est pas traduite.
D'accord.
Et donc, je m'intéressais à la manière dont elle pouvait transcrire des éléments musicaux, mais à l'intérieur de son écriture. Voilà, pas forcément au fait d'avoir un orchestre sur scène, par exemple.
D'accord.
Et puis de toute façon en parallèle j'ai toujours écrit, fait du journalisme, animé des émissions depuis même la fin de l'adolescence en fait.
D'accord.
Par passion et puis petit à petit c'est devenu un métier et à un moment j'ai décidé d'arrêter complètement la recherche et de mettre cette activité là, le journalisme qui avait été une passion, un à côté pendant longtemps au centre.
D'accord.
Et aujourd'hui, du coup, j'ai la chance de travailler pour différents employeurs, que ce soit l'ONG, que ce soit des festivals comme Jazz Nevers,
Alors pour Jazz de Verre, par exemple, comment vous intervenez? À part que si on vous demande une conférence, mais moi je ne vous connaissais pas, je suis que dans le festival, et voilà. Et comment vous intervenez? Comment Roger vous demande d'intervenir dans le festival?
Bah, exactement comme ça, à travers une conférence, à travers une action culturelle.
D'accord.
Cette conférence, je l'actualise à chaque fois que je la donne, hein, je la mets à jour, je mets à jour les chiffres et aussi je l'augmente toujours. Mais en fait, elle est née en 2018 ici dans ce festival.
D'accord.
Et je l'ai donnée depuis dans d'autres festivals. Voilà.
D'accord.
Et puis après, je travaille aussi pour des théâtres. J'écris des textes de communication pour les plaquettes. D'accord. J'écris aussi des textes pour des artistes qui ont besoin de textes pour présenter leurs albums.
Oui,
ou leur,
voilà, oui, donc,
des choses comme ça.
Voilà, très bien.
C'est très divers.
Bon. Eh bien, merci d'être venu à nos micros, Raphaël. Donc, la conférence à 17h, je sais que...
15h.
15h. La conférence à 15h à la médiathèque Jean Jaurès.
À l'auditorium.
Oui. Oui, c'est dans le même lieu, oui, tout à fait, c'est tout à fait au même endroit. Merci d'être venu nous voir, et donc on se quitte avec Yes Yes d'Emmen Elbeck, qui joue ce soir en première partie. Merci Raphaël, au revoir.
Merci beaucoup à vous, au revoir.
Ça fait jaser l'émission de Bac FM installée au cœur du 39e Jazz Nevers Festival. Je reçois maintenant Roger Fontanelle. Bonjour Roger.
Bonjour Philo.
Le directeur du festival pour notre petit bilan annuel de cette semaine écoulée. On a vu de belles choses.
On a vu de très très belles choses, voilà. Et même des choses inattendues programmées suite à un incident. Bon, un trio absolument magnifique.
Voilà, c'est ça. Alors, bon, moi, bon, globalement, le festif, je retiens l'ONJ, qui a joué 2 heures, qui a fait quand même lundi soir, qui a fait un tabac, qui a fait une musique extraordinaire. Voilà, ça.
Et puis qui a montré une vision d'un orchestre totalement transgénérationnel.
Avec la parité.
Quasiment la parité. Et puis avec une jeunesse, des jeunes musiciennes et musiciens qui sont absolument... Voilà.
Et puis ce côté cuivre de Big Band et de l'autre côté de la scène, le quatuor à cordes.
Au sein duquel il y avait un crooner.
Il y avait un crooner. Qu'on ne savait pas qu'il était crooner.
Qu'il était crooner. D'autant plus qu'on le connaît bien, vu qu'il est bourguignon.
C'est ça. Et puis Guillaume Roy, il a joué quand même plein de
fois. Ah, il a joué plein de fois avec Didier Petit et plein d'autres.
Ouais, voilà. C'est ça. Et toi, alors, qu'est-ce que tu... Ah, bon, la création de Vincent Courtois, effectivement, rappelons ce que tu viens de dire.
Oui, alors Vincent Courtois, bon, c'est-à-dire le trio Johannes.
C'est ça.
Qui était une création qui a eu lieu à Rome il y a un mois. Et bon, Colin Vallon pouvant pas être là, bon, avec Vincent, on a très vite décidé de retenir ça. C'est-à-dire, bon, et c'était absolument un des moments vraiment très très forts du festival. Alors on n'est pas dans le jazz tel que l'image qu'on peut en avoir.
Non.
On sait très bien qu'avec Vincent, c'est pas ça non plus. Mais là, je veux dire, bon, le répertoire était absolument...
Et puis,
le dernier morceau d'Arvo Pärt,
c'était
absolument d'une totale beauté.
Voilà. Mais en même temps, tu as la volonté aussi, depuis toujours, de mélanger les genres.
Oui,
depuis le début, il y a de la danse, il y a un peu de musique classique. Là, à midi, on avait de la musique... traditionnel quasiment dans le duo Sarah Murcia et Camilla Joubran, mais donc c'est une pratique que tu as toujours eu.
Mais avec le finalement le dénominateur commun de tout ça, c'est que ce sont des improvisateurs et des improvisatrices ancrés dans cette démarche là voilà, et donc il y a pas de frontières.
Ça reste des musiciens de jazz parce qu'ils sont improvisateurs, en fait.
Oui, voilà. Donc,
c'est là qu'on
La plus vieille génération, oui. Pour la plus jeune génération, quand on voit Fanny Métayer, tubiste à l'ONJ, compte tenu de son parcours, bon, au CNSM, première de la classe, bon, qui joue à l'intercon, est-ce que c'est une musicienne de jazz qui anime, qui défile avec le carnaval de Cône-sur-Loire la saison passée, déguisée, etc. Avec les gamins, tu dis bon. Voilà, la jeune génération, c'est un peu ça aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a vu ça avec Na. Ce trio strasbourgeois de punk jazz, c'était quand même monstrueux. Enfin, moi, j'ai pris... Il y avait dans la salle une personne qui était un peu plus vieille que moi et qui a dit...
Donc, un peu plus jeune que moi, donc.
Un peu plus jeune que toi, un peu plus vieille que moi. Et il a dit au saxophoniste qui a 30 ans, je crois, qu'il dit, mais alors, et moi, j'ai 75 ans, mais j'ai pris un pied d'enfer. donc, c'est ça, le festival, en fait.
Ah ben, c'est ça. Alors, c'est à la fois ça pour des découvertes, des trucs. Et puis, c'est aussi des fois le fait qu'à la fin du festival, les gens débattent.
Oui.
Par exemple, hier, Gauthier Garrigue, qui est pour moi un concert magnifique, etc., d'une totale beauté, et le choix de l'instrumentation avec Casagrande à la guitare était. Ouais. Bon, certains ont trouvé, bon, voilà, donc avec quelques réserves.
Non, mais un festival, c'est.
Heureusement que tout le monde. Heureusement que c'est pas uniforme comme.
Bah oui, c'est pour découvrir un festival.
On découvre, et puis après.
Je suis pas sûr que Lagon Noir, les gens se seraient déplacés comme ça alors qu'ils sont venus au festival, quoi.
Ah ben non.
Alors puis, moi j'ai pas aimé, bon, j'ai pas senti. Il y en a qui étaient enthousiastes.
Et puis même en saison, je veux dire, le duo, tu parlais tout à l'heure de Sarah et de
Camilla.
En saison, le duo là comme ça, on fait pas une très belle salle comme on a eu aujourd'hui.
C'est le festival qui entraîne.
Bah oui, c'est la dynamique.
Et puis la discussion après, c'est bien, quoi. quoi.
Oui, bah, bien sûr.
Alors, on parle de public, faisons un petit bilan financier. Ouais. Je sais que les finances, c'est pas là, c'est pas top, mais au niveau fréquentation, on est bien.
Ah non, mais au niveau fréquentation, on est plutôt... les objectifs sont remplis, il y a eu des très belles surprises. Les concerts du théâtre de midi et 18h étaient plutôt bien, oui, même légèrement mieux que l'an passé.
Il m'a semblé.
Les deux concerts, il y en avait deux cette année, à l'Auberti étaient complets.
Ouais.
Alors bon, oui. 144 places, 150 places, mais bon, avec des propositions qui sont pas...
Des pas connues.
Et donc ça, c'était plutôt bien. Et puis, dans l'ensemble, globalement, le public est au rendez-vous avec un public... Alors, moi, je connais bien le public de Nevers, comme toi d'ailleurs, Nevers, des environs, etc. Alors, on leur connaît, mais il y a énormément de publics dont on sait qu'ils ne sont pas d'ici. Quelquefois, même dans la rue, je suis interpellé, on me dit oh, c'est merveilleux, faut continuer. Vous savez, je viens de Strasbourg, je viens de Nancy, je viens de Bretagne,
les gens prennent
2, 3, 4 jours ici et pour.
Le fait de mettre le 11 novembre dedans, c'est bien. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un week-end, un pont...
Au début, quand on a mis le 11 novembre dedans, à la deuxième édition, je ne sais pas si je ne pensais pas à la 39e.
Hein. Non, déjà, on ne pensait pas aller jusque-là, ça, c'est clair. Donc, on rappelle les financements des institutions, tout ça, on est dans la truc triennale.
Le festival, il est financé dans le cadre d'une convention par tous les partenaires publics, c'est-à-dire... l'aglo de Nevers, le ministère de la Culture, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le conseil régional de Bourgogne et puis le conseil départemental.
Alors, l'Auberti, tu parlais quand même. Là où on a écouté l'essence du jazz, c'est avec Eric Lohrer et Jean-Charles Richard. Le duo, là, il y avait juste... Enfin, c'est la... Comment on dit la moelle
la substantifique.
Moelle, voilà. Et c'était quand même extraordinaire. Ouais.
Non, c'était extraordinaire. Et moi, Jean-Charles, au soprane.
Oui.
Alors, je sais que, Steve Lacy a été son grand maître, etc.
Ils se sont connus.
Le solo de... Voilà, moi, les poils se dressent.
Ouais.
Quand j'ai vu ce concert... au musée d'art moderne à Paris, c'était dans une salle d'expo, etc. Bon, au milieu des œuvres, il y avait Eric tout seul. Eric démarre. Et tout d'un coup, dans le dos, arrive Jean-Charles avec ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit, dis donc, on fait comme au musée d'art moderne, tu reviens de l'extérieur de la salle. Ah, c'est pas bête. Donc, voilà.
C'était sympa en plus.
C'est extraordinaire. Bon, voilà. Et puis bon, moi, comme si vous voulez, En plus de ça, là, on est au théâtre, dans Bac FM est installé au théâtre, là.
Exactement.
À côté pas très loin du Palais Ducal, etc. J'ai une photo où je sors de derrière le théâtre. Et entre le Palais Ducal et le théâtre, avec Steve Lacy. Voilà, donc je ne sais pas qui a pris la photo, m'a donné ça, etc. C'était une photo où j'étais jeune parce que j'avais un perfecto et j'avais des cheveux. Mais
non. C'était possible.
Voilà, et parce que Steve Lacy est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré et qui a compté beaucoup. Et le duo qu'on a vu était d'une totale intelligence dans la construction des thèmes de Steve, des thèmes de musiciens qui l'ont inspiré de Monk, etc. Et le duo avec Eric était totale beauté, ça.
Mais bon, le festival n'est pas fini.
Non, le festival n'est pas fini.
À 17h, il y a Chien Lune.
Il y a Chien Lune. Alors, Chien Lune comme Moondog.
C'est ça.
Voilà.
Exactement.
Moondog, ce musicien iconoclaste qui a beaucoup marqué les musiciens et dont le trio Chien Lune va revivre.
Pour la première fois à Coulanges.
Premier concert décentralisé du festival, dans une ville de l'aglo, en proximité de Nevers et dans une salle équipée, donc Coulanges.
Oui,
on peut dire déjà présent que l'année prochaine, ça sera Vauzelles. Ça sera Varennes-Vauzelles.
Et puis quand même ce soir, il y a Emmanuel Beck qui rend hommage à Eddie Lewis. Eddie Lewis qui a passé une soirée, enfin on se souvient du Multicolor Feeling avec la fanfare. Emmanuel Beck rend l'hommage avec son quintet, ils sont 5. Et puis le grand pianiste jamaïcain, Monty Alexander.
Et jamaïcain.
Jamaïcain.
Américano-jamaïcain.
Américano-jamaïcain.
Parce que son jeu chaloupé nous ça, fait voilà, bien comprendre oui. qu'il est de là-bas, quoi.
Ouais,
c'est bon, ça, voilà. On n'aura pas ça, c'est pas. Donc, bon.
Il y a du monde ce soir.
Ce soir, la salle est bien pleine, d'accord. Le balcon est ouvert, voilà, donc voilà, donc ça sera une belle scène.
Ouais, ouais.
Et voilà, donc et avec un beau découpage de première partie, donc je ne dévoile rien tout de suite, mais voilà, donc avec
un vrai hommage à Eddie
un vrai hommage à Eddie Lewis par quelqu'un qui l'a beaucoup marqué et qui joue de l'orgue, qui joue de l'orgue, parce qu'il a rencontré Eddie Lewis, voilà, Emmanuel Lex, et puis avec des musiciens, bon, qui sont aussi là pour des petits clins d'œil à l'histoire de des trios qu'il a pu
lui-même
parce
avoir.
Que petit hommage au fameux HLP
HLP
eh ben Hubert Louis Ponty,
absolument.
Voilà, et donc
dont non, HLP ça nous parle mais peut-être pas à tout le monde,
ouais, voilà, et dont on peut dont effectivement il y aura une déclinaison ce soir avec Dominique Pifarelli au violon et puis Simon Goubert à la batterie et bien sûr Emmanuel Bex alors voilà.
Très bien. Alors, bon, je suppose que tu connais les dates du 40e, parce que l'année prochaine, quand même, qu'on a fait les 10, les 20, les 30, je suppose qu'il va se passer quelque chose d'un peu...
Il y aura les 40e, mais ce sera toujours en novembre. Hein. Ce sera du 7 au 14.
Voilà. Ben non, mais il faut le dire.
Ce sera du 7 au 14 novembre. Et puis, ben voilà, donc on va essayer de marquer le coup, faire la fête avec... des événements, voilà, et puis une programmation toujours dans l'esprit de ce qu'est le festival depuis des lustres.
Depuis des lustres, ouais, 40 ans. Ça,
40 ans.
Quand on en parlait avec Kassap, on n'arrive pas à s'en remettre, quoi. Avec Chamitian, c'est pareil, on a accueilli en 91,
mais non,
et là, tu te dis...
Non, mais on n'arrive pas à s'en remettre. Et quand on regarde derrière, on dit, ouais, bon sang, tout ça...
Ouais, c'était bien.
Et c'est quelque chose d'assez... Et c'est les musiciens de cette génération-là, c'est ceux que tu cites,
oui.
Voilà, qui sont des jeunes sexagénaires encore, peut-être.
Oui,
voilà. Enfin, si Kassab, pas vraiment. Mais bon, qui ont connu l'histoire depuis tout le début. La jeune génération, elle réagit différemment, parce que la jeune génération, ils viennent à Nevers. Pour eux, Nevers, c'est...
Bah, ça existe.
C'est le festival incontournable où il faut être.
Voilà.
Donc, ils n'ont pas... ils ne mesurent pas les fameux 40 ans, tout ça. Bon, voilà.
Ils t'ont jamais vu décharger un camion, quoi.
Ça a duré qu'un an, ça, la première année. Voilà. Et quand je le dis, on ne veut pas me croire. Mais moi, je sais qu'il y en a qui l'ont vu. Donc, voilà.
Absolument. Merci, Roger, d'être venu.
Merci, Philo.
On se voit ce soir. Donc, venez au concert. Absolument.
Pour faire la fête et terminer cette 39e édition en beauté.
Alors, je ne peux pas terminer cette émission Ça fait jaser sans remercier des personnes indispensables. Catherine et Laetitia, les fameuses, mes fameuses compagnes de Ça fait jaser et de Bac FM. De tes collègues du bureau, Camille, Corinne et Tatiana, qui ont quand même fait un boulot d'enfer pour préparer cette émission. Donc, leur aide est précieuse et cette émission serait impossible sans elle. Merci à toi, parce que quand même... d'avoir créé ce truc-là. Alors, je sais que j'ai participé aussi, mais quand même, il faut remercier les créateurs. Et donc, on se retrouve l'année prochaine. Enfin,
on va se revoir avant, peut-être.
Nous, on se reverra avant, mais avec les auditeurs de Bac FM. L'année prochaine, il y aura encore un Ça fait jaser. Au revoir à toutes, au revoir à tous, et ne quittez pas l'antenne de Bac FM 106.1.